Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour, bienvenue dans votre émission de Radio Okapi intitulée Regard sur l'actualité de la semaine. Ravi de vous retrouver encore ce matin. Nous rappelons que chaque samedi à partir de 7h25, heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essaierons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, pour justement passer en revue l'actualité de la semaine, nous recevons Monsieur Victor Ndouzi. Il est membre de la société civile, il est coordonnateur de l'ONG Nouvelle Alternative pour le Développement. Il est basé au Congo central. Bonjour Monsieur Victor Ndouzi.
Bonjour et bonjour à tous les auditeurs et auditrices de la Radio Okapi.
Bernadette Kamango, journaliste, elle est membre de l'Union Congolaise des Femmes et des Médias ICOFEM en cible. Bonjour Madame Bernadette Kamango.
Bonjour et surtout bonjour à tous les auditeurs de la Radio Okapi.
Et en ligne depuis Yaoundé, capitale du Cameroun, Josué Blaise Mbangakak, il est journaliste spécialiste des questions d'histoire et des géostratégies. Bonjour Monsieur Josué Blaise Mbangakak.
Mbote mbote na yo, et puis Oyebi Malam du Cameroun, mbote à tous les auditeurs Radio Okapi à Kinshasa, la belle et bon week-end.
Merci à tout de suite pour la rétrospective de 7 jours d'actualité.
Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Okapi, ou encore la chronique coronavirus et le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42-502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42-502 et choisissez le menu de Radio Okapi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Okapi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir.
Mesdames et messieurs, vous écoutez Regard sur l'actualité de la semaine, l'émission qui passe en revue l'actualité qui a compté au cours des 7 derniers jours de la semaine. Je rappelle que cette émission connaît la participation de Monsieur Victor Ndouzi, membre de la société civile. Il est coordonnateur de l'ONG Nouvelle Alternative pour le Développement. Il est basé au Congo central. De Madame Bernadette Kamango, elle est journaliste et membre de l'Union Congolaise des Femmes des Médias ICOFEM en sigle. Et en ligne depuis Yaoundé, capitale du Cameroun, Monsieur Josué Blaise Mbangakak, il est journaliste et spécialiste des questions d'histoire et des géostratégies. Nous allons émettre un petit commentaire au sujet des accidents récurrents des navigations sur les fleuves Congo. Plus de 100 passagers ont trouvé la mort dans les naufrages d'un convoi motorisé à Bassankoussou dans la province de l'Équateur dans la nuit des mardis à mercredi sur la rivière Lulonga à proximité du village Likwelo. Selon les témoins, ces convois motorisés s'est rendu à Lilanga au Congo-Brazzaville. Les rescapés affirment avoir perdu toutes les marchandises dont des produits vivriers et des bêtes. Selon le président de la société civile de Bassankoussou, la surcharge est la principale cause de cet énième accident sur la rivière. Quelques semaines plus tôt, l'on a enregistré plus de 50 disparus dans les naufrages d'une embarcation de fortune sur la rivière Ituri. Monsieur Victor Ndouzi, on a cité ce cas, mais la liste n'est pas exhaustive. Et c'est presque chaque semaine qu'on rapporte des cas de naufrages sur nos rivières, sur les fleuves Congo. Quelle est votre lecture par rapport à ces accidents de navigation, Monsieur Victor Ndouzi?
Oui, merci beaucoup et mes salutations aussi aux co-débatteurs. Je pense qu'il y a un problème sérieux chez nous, c'est mettre de l'ordre dans ces services. Aujourd'hui, que ce soit les transports au niveau aérien, que ce soit les transports au niveau routier, nous avons toujours des problèmes. Et en plus, sur les eaux, c'est comme si la mort était banalisée. Donc, c'est vraiment banalisé. Ça ne pose pas de problème, ça ne pose plus de problème. Mais malheureusement, tout ce que je peux dire, aujourd'hui nous sommes dans un système de zone de libre-échange continental. Je crois que quand on est incapable de garantir ces transports-là, demain peut-être que ce sont d'autres personnes, avec les exigences internationales, ce sont d'autres nations et d'autres hommes d'affaires, activistes, qui viendront faire ces transports chez nous et ça sera vraiment ridicule et la honte. L'État doit prendre des dispositions. Ce n'est pas normal que les gens puissent mourir dans ces conditions-là. Dieu nous a aidés avec ce boulevard gratuitement. Il suffit de baliser, il suffit de draguer et il suffit de mettre de l'ordre, le contrôle technique, contrôler le navire qui doit partir. Malheureusement, chez nous, avec la corruption, voilà, nous vivons ce genre de choses et ça ne fait pas l'honneur de notre pays. Et voilà, les gens doivent mourir comme ça. C'est des pertes vraiment incommensurables.
Merci, Madame Bernadette Camango. Des mesures ont été prises depuis toujours portant sur l'interdiction de naviguer notamment, les balisages du fleuve Congo, les ports par les passagers des gilets de sauvetage, mais aucune de ces mesures n'a été respectée jusque-là. Soit il y a manque de suivi, n'est-ce pas, de la part des services publics, soit c'est une certaine complicité de ces services. À votre avis, c'est quoi l'hypothèse la plus plausible?
Bon, de premier abord, tout d'abord, je regrette sincèrement que ce soit la deuxième fois que ce même sujet revienne dans l'émission. Si vous vous souvenez, je pense que ça fait plus ou moins 2 mois, on en avait parlé sur cette situation. Il y avait eu un naufrage, excusez-moi, j'ai un peu oublié, mais c'était toujours au niveau de l'Équateur, où il y a eu encore des morts dues à un naufrage, des personnes qui meurent sur le fleuve, les marchandises aussi qui coulent et tout ce qui est sur ces bateaux-là disparaissent dans le fleuve. J'étais un peu quelque part surprise de constater que en moins de 2 mois, il y a encore ce genre de naufrage. Donc ça veut dire que quelque part, la vie humaine n'a plus du tout d'importance. Parce que si la vie humaine était vraiment importante pour les uns et les autres, des mesures auraient déjà été prises depuis longtemps. Donc on banalise, comme dit mon prédécesseur, on banalise vraiment la mort. Bon, je me dis quelque part peut-être que parce que c'est la petite population, donc on en a que faire, ils peuvent disparaître. Et d'un autre côté, je suis en train de me rendre compte aussi qu'il y a un problème de relation avec la population et la justice. Parce que quand il y a tous ces morts-là, ces morts proviennent de plusieurs familles. Là, on parle de 100 personnes, du moins il semble qu'il faudrait encore confirmer les chiffres, mais si les chiffres sont confirmés de 100 personnes, donc ça fait 100 familles endeuillées. Et ces familles qui perdent leurs membres de famille, bon, je ne sais pas, à leur niveau, ailleurs, on a vu par exemple, je prends à titre d'exemple le naufrage qu'il y avait eu au Djola, même si c'était 1800 morts, donc l'un des accidents fluviaux les plus catastrophiques d'Afrique. Mais les familles ont réagi, les familles ont demandé justice. Mais ici, les familles, quelque part, ne réagissent pas, ne demandent pas leur compte, rien. Et ce problème de transport, c'est pas seulement, comme disait mon prédécesseur, c'est pas seulement au niveau fluvial, c'est aussi au niveau aérien, c'est aussi au niveau routier. Par exemple, moi je reviens de Boma, dans le bus que j'ai pris, c'était le bus, permettez-moi de citer le nom du bus, c'était le bus Macon. On quitte Kinshasa, Boma plutôt, vers Kinshasa, on a une crevaison en plein milieu de la route et imaginez-vous, le transporteur n'avait aucun pneu de rechange, même pas d'extincteur, même pas de cric. Alors comme il roule plus ou moins en convoi, le deuxième bus arrive, on espérait, nous les passagers, que dans le deuxième bus il y aurait peut-être un moyen de réparation, rien. Donc on vous fait voyager sans aucune mesure de protection. On a dû attendre 3 heures du temps que la dépanneuse vienne de Kinshasa. Dans le bus, il y avait des mamans avec des bébés. Et c'est la même situation qui se répète au niveau du système du transport au Congo. Je ne sais pas, c'est un problème vraiment de gouvernance. Comme on le dit, il y a toujours un problème de corruption. Le problème majeur, c'est qu'il y a la corruption. Au niveau du fleuve, c'est toujours le problème de surcharge. Donc on ne respecte pas. Je ne sais plus, je ne sais vraiment plus quoi dire, mais je regrette vraiment que cette situation devienne récurrente et il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est vraiment, les responsabilités sont partagées.
Merci beaucoup, Monsieur Josué Blaise Mbangakak. Madame Bernadette Camango a commencé à les rappeler, hein, l'accident des Djola, les Djola au Sénégal qui avaient fait, n'est-ce pas, plusieurs victimes. Après Djola, quand on voit ce qui se passe sur nos cours d'eau, sur nos fleuves, sur nos rivières, Et on a l'impression que les pays africains ne tirent pas les leçons du passé, monsieur Josué Blaise Ndimbanakaka.
Oui, disons déjà une pensée pour les disparus, pour le respect de leur mémoire. Et j'ai l'impression que la banalisation de la mort en Afrique est devenue le quotidien, c'est-à-dire ça fait partie de notre train-train quotidien. On n'en a plus de remords du tout, du tout. Et je suis tellement outré, choqué au plus haut point. Parlant de ce que Bernadette disait sur à propos du Diola, presque 2000 morts par un ferry que tout le monde savait qu'il n'est plus en parfait état et dont le surcharge était devenu le pain quotidien de cette embarcation. Personne n'a réagi du côté des pouvoirs publics et lorsque j'ai dit cela, je dis cela est valable dans toutes les embarcations à travers tout ce qu'il y a comme embarcation fluviale à travers le continent. Le premier intervenant a dit que non seulement cela est valable sur tous les segments de transport aérien, maritime, terrestre, et ça c'est extrêmement grave, et ça se voit sur toutes les rues, sur tous les aéroports. Voyez-vous, il y a deux chocs, deux accidents graves qui se sont succédés dans deux pays de la CEDEAO, il y a quelques semaines, au Sénégal et en Côte d'Ivoire, et lorsque vous regardez les causes de ces accidents, c'est toujours des questions de défaillance mécanique, de défaillance technique et l'ensemble de ce que Bernadette a appelé la corruption. Tout le monde, il n'y a pas de service technique qui regarde et sanctionne les cas de ce qu'elle vient de dire. Un minibus, un autobus qui fait tant de kilomètres, qui n'a ni extincteur, ni roue de secours, et le propriétaire de la compagnie exige au transporteur de faire plusieurs navettes pourvu que la tirelire soit remplie. À un moment donné, on a envie de demander, est-ce que les Africains sont aujourd'hui aussi insensibles qu'un mur en béton? Parce que c'est extrêmement grave. Je continue de défendre ma position qui consiste à dire, au lieu de chaque fois remettre la cause de nos problèmes sur l'Occident, qui n'a pas fait ceci, qui a fait de l'Afrique un continent poubelle, on envoie des voitures d'occasion, on envoie ci, on envoie ça, c'est aux Africains eux-mêmes de mettre le baromètre, la barre très haute. Telle qualité d'embarcation, telle voiture ne doit pas venir. Et une fois qu'elle est venue, il doit avoir des visites techniques qui permettent la circulation ou pas. Or, le dernier accident fluvial au Congo, tout le monde est unanime que certainement le niveau technique de l'embarcation n'était pas à jour et régulièrement les mêmes causes causant les mêmes effets. Tout le monde est unanime qu'il y avait un problème de surcharge dans l'embarcation. Et moi, je continue même à me poser la question essentielle. Il n'y a pas quelque temps encore, on a connu les mêmes morts entre les deux Congos. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas temps de faire une vraie autoroute, un pont qui relie ces deux pays et qu'on en finisse une fois pour toutes? Parce que s'il n'y a pas de pont entre les deux Congos, je sais que quand il y a des questions comme les embarcations, les propriétaires de ces embarcations sont de mèche avec certaines autorités pour qu'elles ne disparaissent pas. Je suis d'accord. Donc maintenant, ce n'est que après le pont à péage qui est rentable pour les pouvoirs publics et on laisse donc maintenant les embarcations qui peuvent avoir un côté plus touristique et loisir. Pourquoi pas prendre ces embarcations lorsqu'elles sont des embarcations de loisirs? Mais la solution là, maintenant, il faut que les deux Congos s'asseyent et fassent un pont viable avec autoroute pour que les populations de ces deux pays s'arrêtent et arrêtent d'envoyer des signaux dramatiques sur le reste du continent.
Merci beaucoup, Monsieur José Blaise Mangakak. On prend une petite pause avec Pablo Di Poète Lutumba Simaro Masia et on revient tout de suite après.
Pablo, 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 Pabl banaloti nando somo ibia koteni gananda koe tomweta nana ya mi telefone kinchasa bazali ne kobenga e mete azali kolela na telefone sango fai po akute Emotion est salinga bande pour un fin de niveau. La foutie tique n'a comme qui t'a sabane pour un foutie c'est mangalala. La gambango ne vale n'a salinga mon angambo n'a mon attente au tonayo.
Pablo, à travers cette chanson, le poète Lutumba relate l'histoire tragique d'une personne victime d'un naufrage sur le fleuve Congo à la fin de la décennie 80. Pablo, une composition de Simaro Lutumba Massia dans l'orchestre Ok Jazz, interprété par John Poi. Lutumba Simaro Massia et John Poi sont tous morts, paix à leurs âmes. On revient sur l'actualité de la semaine. Au moins 15 personnes ont été tuées et une vingtaine d'autres grièvement blessées dimanche 15 janvier dernier lors de l'explosion d'une bombe artisanale dans l'église de la 8e CEPAC de la commune de Kasindi-Lubiriga au nord Kivu, cité frontalière avec l'Ouganda située à 90 km au nord-est de la ville de Beni. Il s'agit bel et bien d'un acte terroriste posé par les terroristes des ZDF MTM, soutient les porte-parole des opérations militaires Sokola 1 dans la partie grand nord de la province du Nord Kivu. Monsieur Victor Nzuzi, membre de la société civile, vous êtes coordonnateur de l'ONG Nouvelle Alternative pour le Développement, vous êtes basé au Congo central. Pourquoi avez-vous opté pour ce sujet sur l'attentat de Kasindi?
Oui, merci beaucoup, simplement parce que on est tous affectés, bien que je sois à 2000 kilomètres de Kasindi, mais c'est le Congo est uni et restera uni. Mais excusez-moi, avant d'entamer ce sujet, j'aurais quand même voulu donner une petite précision à Josué, que le pont est indispensable entre Kinshasa et Brazzaville, mais toutes les autres provinces à Kinshasa, 80% des provinces, je dirais même, ce sont des provinces dont les autoroutes et le boulevard, ce sont les eaux. Donc, s'il y a des ponts à construire, alors vraiment on doit construire des ponts partout. Je crois que c'est plus les techniques. C'est pourquoi je parlais d'autoroutes que Dieu nous a données à travers ces rivières, à travers ces lacs et ces fleuves. Donc voilà, je voulais quand même donner cette précision. Par rapport à Kasindi, donc je disais que nous sommes vraiment affectés. Affectés parce que c'est une guerre asymétrique. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'ADEF avec ses alliances avec Daesh, qui utilise souvent le bombe comme le font les autres avec Boko Haram et consorts, ça nous terrorise. Parce que aujourd'hui, il faudrait avoir des équipements qui doivent nous permettre de détecter. Il faudrait avoir un service de renseignement qui doit vraiment, vraiment veiller. Alors veiller. Donc c'est une situation très très difficile pour nous et quand on voit l'histoire, comment est-ce que Daesh, qui est l'allié de la DEF aujourd'hui, est en train de se manifester au Nigeria, au Mozambique, je crois que avec les attroupements que nous avons partout dans notre pays, à Kinshasa et consorts, où il n'y a pas de caméras de surveillance, et même s'il y en avait, parce que même dans le pays il y a des caméras de surveillance, mais nous voyons toujours qu'ils réussissent toujours, les terroristes réussissent toujours. Alors allez-y comprendre chez nous où déjà l'équipement, la technologie fait défaut. Donc c'est une situation qui nous a vraiment affectés parce que aujourd'hui ils sont là, mais ils sont en train de conquérir pratiquement toute l'Afrique. Leur allié Daesh est en train de conquérir toute l'Afrique et s'allier aux différents acteurs. Mais seulement, ce qu'il faut dire, moi je ne comprends pas pourquoi. C'est vrai que l'Ouganda est avec nous aujourd'hui dans le combat. Mais ce sont des groupes qui viennent de l'Ouganda et qui viennent terroriser chez nous. Ça fait très mal. Et même si ça s'est passé en Ouganda ou bien
au Rwanda. C'est pas normal. Nous, au niveau de l'Afrique, nous devons vraiment nous battre. Mais ce qui me met aussi beaucoup plus mal à l'aise, c'est de voir la lutte contre le terrorisme ailleurs. Eh bien, c'est toutes les nations qui se mettent ensemble. D'ailleurs, on en a parlé au Mozambique, on a vu comment l'Union européenne a accompagné l'armée mozambicaine, a accompagné la force africaine qui est allée au Mozambique et consorts. Mais vous verrez que chez nous, en République démocratique du Congo, on se sent presque un peu abandonné. C'est vrai, nous avons la MONUSCO, mais cette MONUSCO aujourd'hui est en train de démontrer ses limites. Je pense qu'il faudrait des branches spécialisées de la MONUSCO, des luttes antiterroristes maintenant qu'il faudrait vraiment instruire, qu'il faudrait créer pour cet autre aspect des choses. Et surtout de voir au niveau de notre gouvernement quel genre de dispositions, quel genre de technologies, quel genre de services de renseignement on doit mettre sur pied. Parce qu'avec des attroupements qu'on a à Kinshasa, à Mbandangung, à Matadi et qu'on sort partout dans notre pays, mais ça risque d'être alors encore des catastrophes.
Monsieur Victor Ndouzi, ce n'est pas par hasard que des terroristes posent des actes. Et à votre avis, qu'est-ce qui pourrait avoir poussé l'espace des terroristes à choisir un jour de culte pour opérer? Et aussi, pourquoi avoir ciblé la cité de Kassindi qui, jusque-là, semblait épargné, n'est-ce pas, par l'insécurité qui sévit dans les territoires des Béni.
Oui, ben écoute, il y a l'arrivée du pape, hein, et je crois que c'est un message fort. C'est pour dire que faites attention. Voilà, donc il s'agit de l'alerte. Et aussi, c'est vers la frontière avec l'Ouganda. Donc c'est de dire aux forces ougandaises qui s'allient à l'armée congolaise que voilà, vous êtes là, mais nous sommes en train d'opérer. Donc c'est un message très très fort. Et aussi aux différentes forces qui sont là, sinon les autres pays qui vont soutenir, même le Rwanda qui est allé soutenir la force africaine au Mozambique, avec Daesh qui est aussi sur place, qui soutient la branche rebelle mozambicaine, pour dire que voilà, nous sommes là et nous pouvons opérer partout. Donc c'est un message très très fort pour dire à toutes ces grandes puissances que voilà, nous sommes là, c'est pas seulement le Sahel, mais nous sommes partout, parce que partout, ces terroristes, ils opèrent. Mais c'est un message aussi pour nous dire que voilà, nos minéraux, c'est une façon de nous mettre, de nous... Oui, les termes, c'est ça, nous terroriser pour qu'ils continuent à piller les minéraux dans ces milieux-là. Et ça doit, une fois de plus, interpeller le gouvernement congolais. Sincèrement, nous devons arrêter de danser, de parloter, de faire des discours inutiles. Nous devons nous mettre au travail. Nous avons tous les atouts, nous avons le moyen, le potentialité qu'il faut pour que ce pays soit un pays qui soit capable de se défendre. Malheureusement, aujourd'hui, notre défense est presque, je dirais, il faut négocier avec celui-là, avec celui-ci, c'est vrai, au niveau international, ça s'est fait contre le terrorisme, mais nous devons prendre nos dispositions pour que réellement notre État soit capable de défendre sa population et surtout cet aspect nouveau qui est le bombe placé par-ci, par-là. C'est une autre forme de guerre qu'on nous impose encore maintenant.
Merci Madame Bernadette Kamango. Vous êtes journaliste et membre de l'Union congolaise des femmes des médias ICOFEM en sigle. Cet attentat ne vient-il pas confirmer la thèse selon laquelle les opérations conjointes FRDC-UPDF en cours dans les territoires des Béni n'ont pas permis, n'est-ce pas, d'anéantir la menace terroriste des EDF, mais plutôt ont permis de délocaliser, n'est-ce pas, cette menace sur d'autres parties du territoire qui, jusque-là, étaient épargnées?
Tout d'abord, je présente vraiment toutes mes condoléances à toutes les familles qui viennent de perdre de manière, dans un, comment je peux dire, un crime crapuleux, leurs êtres chers. Je pense d'abord aussi que si cet attentat s'était déroulé à Paris, à Washington, à Londres, à Bruxelles, à Madrid, je crois qu'à cette heure-ci, c'est le monde entier qui serait en train de manifester à gauche, à droite, contre le terrorisme, en train de faire du bruit sur tous les médias du monde. Ce qui n'est pas malheureusement le cas en ce qui concerne la RDC, qui est un pays meurtri depuis plusieurs, trois décennies maintenant, en ce qui concerne le terrorisme, hein, que ce soit avec le M23, que ce soit avec les ADEF, Donc il y a une certaine passivité quand la RDC est touchée de aussi horriblement avec ces groupes terroristes. Et moi particulièrement, j'ai retenu le communiqué, le tout dernier communiqué de l'honorable Marie-Louise Abomo, qui est rapporteure pays de sur la situation des droits de l'homme en RDC, hein, et de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, qui justement, dans son un communiqué qui date exactement du 17 janvier, elle réitère l'appel de la Commission à tous les protagonistes à cesser immédiatement toutes les hostilités et à aller au dialogue afin de résoudre pacifiquement les divergences qui les opposent dans l'intérêt de la paix, la sécurité et la stabilité. Donc j'étais en train de dire que moi je suis parfaitement d'accord à ce qu'il y ait toujours des dialogues pour essayer de résoudre les problèmes de manière pacifique et effectivement pour que on puisse un peu respirer à plein poumon la paix, la sécurité ici en RDC. Mais d'un autre côté, quand j'observe également ce qui est en train de se passer comme résultat en ce qui concerne le mini-sommet de Luanda, qui s'est tenu au mois de novembre entre la RDC et le Rwanda, sous l'égide du président angolais, qui, en principe, à partir de novembre, il avait été demandé le retrait immédiat du M23 de ses positions, et qui, au plus tard, le 15 janvier, tous les M23, en principe, auraient dû terminer ce processus-là de retrait. Mais le constat, c'est que ils font un peu ce que moi j'appelle le jeu de Tom et Jerry. Donc, ils font semblant de se retirer, malignement, et puis vous êtes surpris qu'ils se retrouvent un peu quelque part à quelques mètres du village là où vous leur avez demandé de quitter leur position. C'est un peu la même chose avec Daesh. Le dialogue, je suis parfaitement d'accord avec ça, parce que par le dialogue, ça nous évite de pouvoir recourir aux armes, de pouvoir endeuiller les familles, de pouvoir tuer d'autres populations, des populations innocentes. Mais les partisans avec qui vous allez justement essayer de dialoguer, qu'est-ce qu'ils ont dans leur cœur? Absolument rien. De manière un peu vulgaire, je dirais, ils s'en foutent perpétuellement de ce qui se passe en RDC. Eux, c'est la RDC pour les richesses, c'est la RDC pour que, si nous pouvons même aller jusqu'à la balkanisation, qu'on puisse balkaniser ce pays. La RDC, c'est pour eux, ce n'est pas pour les Congolais. Alors, dialoguer avec ce genre de personnes, je ne sais pas si on arriverait à un résultat. Le M23 vient de nous le démontrer. Maintenant, pire, avec Daesh, qui, moi je suis sûre, si par exemple cet attentat s'était passé à Paris, à Washington, à Londres, à Madrid, je ne sais pas où, mais actuellement, ce serait le monde entier, tous les médias qui en parleraient et qui feraient du bruit. Mais on constate que Daesh attaque en RDC, fait des morts. Non, ça passe, nous soutenons, nous regrettons. Du bout de la bouche, du bout des lèvres, on présente simplement ses regrets, mais aucune action forte n'est vraiment faite pour dire que non, ça suffit, la RDC a trop pleuré. À partir d'aujourd'hui, nous, les gens de la communauté internationale, soutenons la RDC telle que nous sommes en train de soutenir, par exemple, ce qui se passe en Ukraine. Je me dis, mais pourquoi est-ce que les autorités congolaises ne pourraient pas casser un peu leur divergence, c'est-à-dire l'opposition, quand je parle de l'opposition, le régime passé, essayer de vous associer ensemble et d'essayer d'expliquer, mais de quelle manière vous aviez mis fin au M23.
Merci.
Donc, c'est un peu ça.
Merci, madame Bernadette Kamango. Monsieur Josué Blaise Zembangakak, vous êtes journaliste et spécialiste des questions d'histoire et des géostratégies. On les constate dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest où sévit ce phénomène de terrorisme. Les gouvernements n'ont pas, n'est-ce pas, hésité à mettre en place des unités d'élite formées sur des techniques de guérilla antiterroriste pour faire face à cette menace. Ces gouvernements n'ont pas non plus hésité à signer de nouveaux partenariats avec d'autres pays, n'est-ce pas, de la région, à mettre en place, n'est-ce pas, des synergies pour leur permettre de faire face à ces types de menaces. Et à votre avis, que devrait faire le gouvernement congolais et maintenant que la menace elle est là, elle est sur son territoire?
D'abord, Guy, je voulais dire que ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, dans la zone CDAO, tout ce qui se fait là, c'est du chauffage, du maquillage, tout simplement, ça ne va pas régler le problème. Le problème, tant qu'on ne l'a pas touché à la racine, le problème sera toujours à la surface. la question Touareg avec les accords d'Alger se pose de façon claire. Pourquoi les trois pays sont les plus attaqués, le Niger, le Burkina et le Mali? Et tout simplement parce que cette zone désertique est considérée par les Touaregs comme étant leur portion. Les Touaregs se retrouvent répartis dans tous ces pays-là sans avoir une portion de pouvoir et estiment qu'il est temps d'avoir leur azawad et tout ce qu'ils veulent. Tout ce qu'on fait là, on fait changer des partenaires français, russes, Wagner ou pas Wagner. En réalité, tant que ça sera là, on fera un coup d'État, on fera un autre coup d'État, mais le problème ne sera pas réglé. Et la question d'être aujourd'hui pour la France, contre la France, n'est que du maquillage et du saupoudrage. La question est de s'asseoir clairement et regarder ce qui se passe au fond sur la question Touareg au Burkina, au Mali et au Niger. De quoi s'agit-il? S'asseoir et regarder ce qui s'est dit lors des accords d'Alger et avoir le courage de discuter et de voir ces choses-là au lieu que chaque fois qu'un chef d'État arrivait dans ces différents pays, finissait son mandat à la limite, sauf celui d'Ibeka où il a été renversé, laissait la patate chaude au successeur qui arrivait en se disant « bon, moi, je vais laisser ça au successeur ». Alors, on ne peut pas régler ce problème et même les médias africains se sont mêlés. L'opinion publique, dans sa grande majorité, est devenue anti-français pour un oui, pour un non. La question est simple. Tant qu'on n'a pas réglé la question Touareg dans ces trois pays, il n'y aura pas de sécurité dans ces pays. Ça, on est en train de se voiler les yeux. Par contre, maintenant, pour revenir à RDC, qui n'a rien à voir avec ce qui se passe là-bas, parce que là-bas, il y a un problème de communauté qu'il faut régler. Ici, c'est que la RDC n'avait pas l'habitude d'avoir des attaques sur fond religieux, et on s'attendait plus souvent, quand il s'agit de la RDC depuis les années 70, la Légion saute sur Kolwezi, le M23, c'est-à-dire c'est une portion du terrain congolais qui est coupée par un tel ou par un tel, parce que le Congo étant un pays contenant, ça fait que la question de sécurité doit redevenir aujourd'hui au Congo une question prioritaire. Une question prioritaire, c'est-à-dire anticipée par l'information, anticipée par le renseignement et une veille permanente pour savoir qu'est-ce qui se passe. Parce que au jour d'aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe, on ne peut pas aujourd'hui dire est-ce que ça va se répéter demain ou ça va se répéter après-demain ou et quand et comment. Parce que la question des attaques sur fond religieux est une chose, comme le disait c'est lequel de mes deux confrères l'a dit avant, c'est-à-dire que généralement, c'est des signaux, comme le pape arrive, ça doit être des gens qui sont peut-être sur l'option anticléricale, anticatholique, anti-presbytérien, anti-chrétien, qui le font savoir au pape patron des églises chrétiennes, catholiques, qu'en venant, peut-être parce que là maintenant les services de sécurité et de renseignement du Vatican sont en train de chercher et de savoir pourquoi cette explosion, pourquoi maintenant, pas avant et pas après. Alors donc je pense que la République démocratique du Congo n'a pas été habitué à des attaques de type religieux depuis. D'abord, le Congo, depuis, a toujours été une mosaïque, une cohabitation de plusieurs religions qui cohabitent pacifiquement, et ça n'est pas d'aujourd'hui, c'est une vieille histoire. On dirait même que le Congo est une juxtaposition des confessions religieuses, pas un pas sans qu'il y ait une religion au Congo, donc on est tous surpris que cela arrive là maintenant, et on a une pensée pour ces morts qui étaient allés célébrer la vie et qui trouvent la mort.
Merci, chères auditrices, chers auditeurs. L'actualité en RDC, c'est aussi l'actualité musicale. Nous allons écouter Maboko Milaï, cette nouveauté de Inos B, et on revient juste après.
We're all alone.
Respecter Gilles Alinguetti.
Dans cette émission Regard sous la tête de la semaine. Je rappelle que chaque samedi, à partir de 7h25, heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué la tête de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essayons de comprendre dans quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la RDC. Dans la première partie de ces magazines, nous avons fait un commentaire sur les accidents de navigation sur les rivières congolaises. Et nous avons également analysé l'attentat qui a visé les fidèles de l'église de la 8e CEPAC de la cité de Kassindi au Nord Kivu. Je rappelle que nous avons dans cette émission la participation de M. Victor Nzuzi. Il est membre de la société civile, il est coordonnateur de l'ONG Nouvelle Alternative pour le Développement, il est basé au Congo central. Madame Bernadette Kamango, elle est journaliste et elle est membre de l'Union congolaise des femmes des médias ICOFEM en sigle. Et en ligne depuis Yaoundé, capitale du Cameroun, Josué Blaise Mbangakak, journaliste spécialiste des questions d'histoire et de géostratégie. Les opérations d'enrôlement et d'identification des électeurs pour les scrutins du 20 décembre prochain se clôturent le 23 janvier 2023. Pour la première ère opérationnelle, les provinces concernées sont Kinshasa, Kwango, Maïndombe, Nord et Sud Ubangi, Équateur, Congo central, Kwilu, Mongala et la Tchouapa. Cependant, pour l'opposition et certains observateurs, le déroulement de ces opérations est chaotique et désastreux. L'opposition notamment redoute un chaos du fait de plusieurs anomalies constatées. Madame Bernadette Kamango, on revient encore à vous. On peut savoir pourquoi vous avez choisi de parler de ces opérations d'enrôlement en cours actuellement dans cette première ère opérationnelle?
Oui, parce que d'abord l'enrôlement, ça concerne toute la population congolaise actuellement. Et ensuite, bon, c'est vrai, c'est une bonne chose que la CENI ait puis quand même lancé les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs, surtout dans la première ère. Malheureusement, le constat, c'est que le bilan est loin d'être satisfaisant. On constate des ratés, des irrégularités dans le déroulement de ces opérations. Et à gauche, à droite, bon, on constate des dysfonctionnements avec les kits, l'achat des services, surtout au niveau des personnes qui sont censées faire la surveillance dans les centres. Par rapport à la cartographie, il y a aussi l'inexistence de certains centres qui pourtant ont été repris par, sur cette fameuse cartographie. Mais il y a aussi, on constate un peu de manque de maîtrise des agents par rapport aux machines. Alors, dans 4 jours, pratiquement, ce sera la clôture. Alors, des fois, on se demande, mais pourquoi est-ce que la CENI a voulu d'abord organiser ces identifications et enrôlements dans un délai d'un mois? Par rapport à ses prédécesseurs, pratiquement on peut citer le regretté Abbé Malumalu, qui lui avait pris 3 mois, et pourtant c'était les toutes premières élections que le pays organisait, et tout, que ce soit Corneille Nanga, que ce soit
le pasteur Mulunda,
voilà, c'est ça, ils avaient quand même pris 3 mois pour bien organiser. C'est bien de dire, bon, on va prendre un mois, mais au bout d'un mois, vous vous rendez compte que tous les électeurs ne sont pas enrôlés et qu'il y a encore toute une grande partie de la population qui n'est pas enrôlée et vous dites que non, voilà, on va prolonger. Déjà, quand le un mois de délai que vous êtes donné arrive et que vous n'avez même pas atteint ne fût-ce que une grande majorité des enrôlements, c'est déjà quelque part un échec qu'on peut constater. En dehors de ça, ce qui a fait que je choisisse aussi ce sujet, c'est par rapport aussi au comportement, malheureusement, de tous les acteurs politiques qui pratiquement se lancent déjà dans une pré-campagne électorale. Et malheureusement, quand ils vont sur le terrain pour se faire enrôler, c'est avec tambour, tam-tam, et ils ne se gênent même pas. C'est-à-dire que quand ils arrivent dans un centre, on doit les accueillir. Les personnes qui étaient là peut-être depuis 4-5 heures du matin, donc on les laisse tomber tout simplement parce qu'on doit s'occuper des soi-disant candidats, des soi-disant acteurs politiques. Alors je me demande, bon, déjà, des personnes qui se disent candidats pour les prochaines élections affichent un comportement d'égocentrisme, pratiquement d'égoïsme. C'est d'abord le moi qui règne et puis vous venez auprès de votre base, vous les écrasez de cette manière. Dans les centres, ces centres qui sont supposés être utilisés plus tard, là où vous allez demander votre vote, je ne comprends pas un peu ce. Et puis, ce qui me choque encore, c'est que quand les médias reprennent un peu tous ces tapages-là de ces futurs candidats, soi-disant acteurs, donc c'est une campagne électorale déguisée, et je ne comprends pas comment est-ce que des personnes aussi responsables puissent se comporter de cette manière envers leur base. Bon, tout ça laisse un peu un goût amer par rapport à l'organisation de cette CENI. Moi, je pourrais même dire que la meilleure organisation des élections, de ces opérations d'identification et d'enrôlement, je pourrais dire pratiquement que c'est ce qui avait été organisé par le regretté Abbé Maloumalo.
Merci, Monsieur Victor Nzouzi, au Congo central, où vous êtes basé. Avez-vous constaté une certaine amélioration dans ces opérations d'enrôlement et d'identification des électeurs?
Oui, mais amélioration, dernière minute, mais les machines continuent à planter et jusqu'à présent, on a vraiment des difficultés. On n'a pas pu enrôler la moitié des requérants. Mais vraiment, c'est déplorable parce que il y a toujours ces petits adages qui dit l'expérience rend l'homme sage. Moi, je me demande pourquoi, au niveau de la CENI, si le président est nouveau et son équipe, mais il y a une administration qui existe et qui a existé. Pourquoi ils n'ont pas pu tirer les leçons du passé? Et je me rappelle qu'à un certain moment, Patricia Ancea, la dame rapporteure, avait alerté qu'un mois ne suffisait pas. Mais malheureusement, on n'en a pas tenu compte. Donc, sincèrement, c'est décevant pour M. Kadima, parce qu'il est expert, et voilà. Ce qui arrive là, il n'a pas tiré les leçons du passé, et c'est regrettable. Moi, je suis à 50 km de Mbandangungu. Donc, la machine tombe en panne, il faut attendre Mbandangungu, et Mbandangungu doit chercher le moyen pour venir chercher et celle qui s'occupe de la machine, et la machine. Après, il faudrait la ramener, sinon vous allez dans des villages où le batterie, il faudrait venir le charger là où il y a l'électricité, alors qu'on nous avait parlé de panneaux solaires. Et quand les panneaux sont arrivés, c'était 2 semaines après le lancement de la campagne, et ces panneaux sont arrivés, pour le cas de Mbandangungu, les panneaux sont arrivés sans les câbles. Allez-y comprendre. Donc, sincèrement, c'est décevant. Après, on nous envoie des agents dans le village, on nous envoie des agents sans pour autant qu'ils puissent avoir de l'argent de poche. Des agents qui doivent travailler de 7h30 pratiquement à 18h affamés. Mais sincèrement, on ne peut pas comprendre. Quand on parle de monnayage, c'est-à-dire qu'on incite les gens à la corruption. Et là, c'est malheureux. Celle dont Maman Bernadette a parlé pour la campagne précoce, c'est vraiment décevant parce que vous avez des hommes politiques. Vous avez des députés, ceux-là qui venaient de voter la loi électorale, sans même compter ceux qui vont prester cette année. Mais vous avez des députés qui font la campagne électorale. Ce n'est pas la pré-campagne, c'est vraiment la campagne, avec des banderoles, avec des messages, soi-disant pour nous inviter à l'enrôlement. Et tout ça, la loi laisse faire. Alors, lorsque c'est un député, celui-là qui façonne la loi, celui-là qui va voter la loi, qui initie la loi et qui viole la loi, sincèrement, c'est ridicule. Donc, je crois que nous devons tirer les leçons. Mais malheureusement, bon, on est un peu têtu dans ce pays. On est têtu parce que si on avait écouté CA et je crois Patricia, on ne serait pas arrivé à cela.
Merci.
Et si on avait tiré aussi les leçons du passé, on ne serait pas arrivé à ce niveau.
Merci, M. Josué Blaise Mbangakak. Ces failles qui sont relevées dans ces opérations, s'ils ne sont pas élaguées, pourraient-elles avoir quel impact sur la suite du processus électoral, M. Josué Mbangakak?
Déjà, ce que Victor a pu dire et Bernadette, j'en fais mienne. Bon, ben, ce que je veux dire, hein, les lois, les élections, c'est en politique. Et tout ce qui est en politique, le résultat est lié au rapport de force ou à la capacité de mobilisation. C'est-à-dire que du début à la fin du processus jusqu'à l'élection, s'il y a une forte mobilisation, il y a de fortes chances que tout se passe bien. Donc, je crois que ces histoires de tel est proche de la majorité ou pas proche de la majorité, on a vu quand même sous Kabila Kabangé, le président Corneille Nangaa, qui dirigeait la commission des recensements et des élections, il a fait ce qu'il a pu faire, et en bout de piste, on a vu ce que ça donnait, c'est-à-dire qu'il y a eu un changement à la tête de l'État. Donc à un moment donné, c'est le terrain et les jeux des chefs dominicaux et tous les chefs des théories des dominos qui aboutissent à un résultat. Donc, il faut dire que les partis politiques, la société civile amènent les gens à s'inscrire, les électeurs à s'inscrire massivement sur les listes électorales. Et une des choses maintenant, comme la plupart des partis politiques dans les pays africains, hormis celui qui est au pouvoir et ceux qui ont été au pouvoir, qui parfois même peuvent être affaiblis après avoir quitté le pouvoir, que ces partis puissent avoir dans les bureaux de vote des différents bureaux dans tout l'ensemble du pays, des scrutateurs et tout ce qu'il y a comme contrôle. Or, tant qu'on n'a pas ça, le rapport de force est défavorable, c'est-à-dire que l'administration locale et le parti au pouvoir sera représenté dans l'arrière-pays, dans les régions et dans les provinces. Ça fait qu'à un moment donné, les résultats seront toujours le reflet du rapport de force sur le terrain. Or, de deux, il faudrait que beaucoup de partis politiques aient des séances de formation de tous ceux qui ont la charge d'aller regarder, veiller au scrutin du début à la fin du processus. Parce que je ne suis pas certain que le cousin du candidat ou le neveu qu'on envoie sait même qu'il y a combien de PV à signer, qu'est-ce qu'il ne faut pas signer, est-ce qu'il a droit à signer. Il peut être là avant même la tombée de la nuit, il pense que bon, il a été au début, il a vu le truc, à 15h, 16h, il est parti, alors qu'il faut attendre là, signer les différents procès-verbaux, garder sa copie pour remettre à son état-major. Alors, pour conclure en disant, la qualité des élections est conséquente du pouvoir, du rapport de force sur le terrain. Même le pouvoir peut tout faire et ne peut pas tricher en fonction de la mobilisation. Quand le pouvoir sait que les rues de Kinshasa, de Goma, de Lubumbashi, en passant par toutes les autres villes, la mobilisation est telle que la moindre tisserie peut amener l'étincelle dans le pays, on est obligé de donner les résultats tels quels.
Merci. On prend une petite pause en écoutant Journaliste en danger d'Alpha Blondy et on revient juste après.
Mon ami Zongo refuse de baïonner sa plume au Burkina Faso. Et Zongo est mort, brûlé par le feu. Que justice soit faite pour l'amour de Dieu. Le marteau et l'enclume, les plumes se barricadent derrière leur une. La liberté qui a laissé les plumes. Journaliste incarcéré, journaliste assassiné. Les voix des sans-voix tuées, tout ça doit changer. La démocratie du plus fort.
se passe comme ça. Les gouvernants font la pluie et le beau temps. Le peuple meurtri fait semblant d'être content. Une rafale de mitraillette balaya le président. C'était regrettable accident. Le même rituel sanglant. Autant en emporte le vent. Le sang appelle le sang.
C'était Journaliste en danger avec Seydou Koné, dit Alpha Blondie, né le 1er janvier 1953. C'est un chanteur de reggae ivoirien. Il chante aussi bien en français, en diola, en baoulé, qu'en anglais. C'est un artiste de scène qui s'est produit dans le monde entier. Il a été nommé ambassadeur des Nations Unies pour la paix en Côte d'Ivoire en 2005. Je rappelle que nous avons dans cette émission M. Victor Ndouzi, il est membre de la société civile et le coordonnateur de l'ONG Nouvelle Alternative pour le Développement. Il est basé au Congo central. Madame Bernadette Kamango, journaliste, elle est membre de l'Union congolaise des femmes des médias Ecofem en sigle, et en ligne depuis Yaoundé, capitale du Cameroun, Monsieur Josué Blaise Mbangakak, il est journaliste spécialiste des questions d'histoire et de géostratégie. Le président de la République de la RDC a pris part aux travaux de la 23e édition du Forum économique de Davos en Suisse, dont l'ouverture est intervenue lundi 16 janvier. Félix Tshisekedi était accompagné des ministres des Finances, de l'Environnement et des Mines. L'édition 2023, qui s'est clôturée ce vendredi, a été organisée sous le thème de la coopération dans un monde fragmenté, ayant pour toile de fond un enjeu majeur aujourd'hui, à savoir la transition énergétique. Monsieur Josué Blaise Mbangakak, qu'est-ce qui a motivé les choix de ce sujet sur Davos?
Déjà, je voulais dire que c'était bien déjà le choix de la chanson de Alpha Blondie. C'est vrai, tout son nom complet, c'est Seydou Accra Koné, de son vrai nom, donc en hommage à sa grand-mère qui ne pouvait pas l'appeler Petit Bandit, l'appelait plutôt Blondie, a gardé ce petit nom en mémoire de sa grand-mère, dont j'écoute beaucoup Alpha Blondie. Bon, pour revenir à Davos, à proprement parler, en réalité, c'est quoi, qu'est-ce qui a guidé mon choix? C'est tout simplement que de plus en plus, le monde entier se retrouve, se regroupe, et les gens y vont pris individuellement par pays, et je suis très content que les Africains aillent chacun dans ce qu'ils ont. Il a comme ses bagages dans son panier, c'est-à-dire au lieu de passer son temps à parler d'une chose qui n'est que dans la rêverie. On parle d'une place au Conseil de sécurité. Là-bas, on a des pays. Mais il y a quelques illuminés africains qui pensent qu'il faut qu'on donne une place à tout un continent. Et un continent où on sait bien que l'Afrique du Sud, cette mastodonte économique, ou le Nigeria, n'ont rien en commun avec d'autres pays que je ne citerai pas pour ne pas être heurté des sensibilités. Et quand, comme le dit mon ami Joseph-Antoine Bell, quand les autres pays veulent organiser une Coupe du Monde, ils organisent, on dit, la Coupe du Monde d'Allemagne, de la France, d'Italie ou de l'Angleterre. Il n'y a qu'en Afrique où les gens veulent organiser une Coupe d'Afrique continentale. Arrêtons ça. Et je pense que le sommet de Davos vient encore confirmer ce que j'ai toujours pensé, que chaque pays a ses réalités et ses réalités sont sous ses pieds et il doit aller les poser de façon claire au niveau du Conseil des Nations, comme le disait si bien le président Senghor. Donc Davos, qui est un grand espace où ceux qui influencent la marche du monde, dans le monde de la haute finance, de l'économie, et de la politique se retrouve, il est de bon ton que chaque pays africain aille avec sa carte, sa fiche, et porte clairement ses problèmes qui lui sont propres. Le reste des problèmes, les Africains ont notre espace, l'Union africaine où ils peuvent se retrouver, c'est regarder dans le miroir et tirer les résolutions et les solutions face à leurs problèmes. J'ai un ami écrivain, Gaston Kelman, qui a écrit un livre à succès, je suis noir, je n'aime pas le manioc. Lors de nos échanges ou parfois lors des colloques, elle a la coutume de dire, il faudrait que la gazelle arrête de pleurnicher en pensant qu'un jour le lion va devenir herbivore pour la protéger, elle, la gazelle. C'est à la gazelle de prendre des dispositions d'inverser le rapport de force. Le lion ne deviendra jamais herbivore pour plaire à la gazelle.
Justement, monsieur Joseph Blaise Mbangaka, le thème de ces travaux était coopération dans un monde fragmenté. Et comment vous entrevoyez cette coopération dans un système économique mondial où les grandes puissances économiques, n'est-ce pas, continuent à fixer elles-mêmes les prix des produits que les pays producteurs leur proposent?
Vous savez, tout ce qu'on fait, que ce soit sur le domaine économique, politique ou, est une question de rapport de force. Il ne viendra jamais à des pays occidentaux de fixer le prix du brut tant que, d'abord, les pays arabes ont plusieurs forums où se retrouvent la Ligue arabe, l'OPEP, et à l'intérieur de l'OPEP, il y a les pays arabes producteurs de pétrole. Donc, ils montent au filet, fixent leur prix, différemment des pays africains, ACP, Caraïbes et autres, qui ont eu l'habitude d'être à la traîne, de pleurnicher, au lieu d'inverser le rapport de force. Combien de pays africains sont à la tête du cacao café, Côte d'Ivoire, Ghana? Mais en réalité, on n'a pas l'impression que c'est un groupe de pression qui est capable d'influer ou d'influencer les prix au niveau mondial. Alors, tant qu'on sera nous-mêmes recroquevillés sous nos petits souliers, les autres fixeront toujours. Vous voyez, les pays arabes ne sont pas souvent des modèles de démocratie. Les pays arabes ne sont pas des modèles d'élection, puisque parfois la plupart il n'y en a même pas. Mais la puissance qu'ils ont amenée avec leur pétrole et a inversé le rapport de force sur l'espace mondial a fait que l'Occident est obligé d'être à la remorque, à l'inverse des pays au sud du Sahara en Afrique, qui sont plutôt à la remorque des puissances occidentales. Ça, c'est pas l'appel de pleurnicher, ça est de s'organiser et aller à ces forums pour poser clairement des rapports de force à aller dans le sens de les inverser. Vous savez, je continue de dire que c'est pas des espaces de bavage où on s'en va pleurnicher un époux qu'on a perdu. Non, là-bas, c'est les intérêts, et dans le monde des intérêts, les gens sont aussi insensibles que des murs en béton.
Merci. Merci, M. Betondouzi. Je rappelle ces thèmes, coopération dans un monde fragmenté, ayant pour toile de fond un enjeu majeur aujourd'hui, à savoir la transition énergétique. Monsieur Victor Nzuzi, le monde fait face à la crise climatique et économique. D'un côté, pour régler ces problèmes climatiques, les gouvernements du monde prônent notamment l'abandon des énergies fossiles. De l'autre, pour booster la croissance économique, les mêmes gouvernements ont tendance à recourir à nouveau à ces énergies fossiles. N'est-ce pas un paradoxe? Dans ces conditions, comment Davos pourrait-il réussir, n'est-ce pas, à promouvoir cette transition énergétique, Monsieur Victor Nzuzi?
Oui, merci beaucoup. C'est vraiment un paradoxe. Quand on parle de la coopération, mais en tout cas, il faut un peu s'amuser. J'ai pris les dictionnaires tout à l'heure pour voir. On dit branche de l'économie sociale fondée sur l'association dans le travail et la participation aux bénéfices. Alors, allez-y comprendre. Est-ce que, sincèrement, nous serons là un jour à partager ces bénéfices avec ces grandes puissances? Quand vous m'aviez cité, vous dites que je suis le coordonnateur des nouvelles alternatives pour le développement. C'est un réseau. Nous sommes membres d'un réseau international, le comité pour l'abolition de la dette illégitime. Et nous avons organisé, nous avons participé à plusieurs contre-sommets de Davos. Donc, j'ai été à Porto Alegre plusieurs fois. J'ai été au Forum Social Mondial à Porto Alegre, à Belém au Brésil, à Porto Alegre au Brésil, à Mumbai en Inde, au Kenya, au Maroc, à Caracas et consorts, pour justement faire le contre-sommet. Bon, on a vieilli, maintenant on reste sur place. Donc, c'est pour vous dire que ces gens-là qui parlaient de la mondialisation hier, le monde qui devenait un village planétaire, mais aujourd'hui, ils sont en train de faire du protectionnisme. C'est comme ça qu'ils parlent de coopération dans un monde fragmenté. Quand il y a eu Covid, vous aviez vu comment, même pour vous envoyer comment on appelait ça, ce cache-nez là, c'était un problème. Pour vous envoyer le vaccin, c'était un problème au départ. Donc, nous sommes dans un système plus que terrible. Ils vous disent qu'il faudrait arrêter toutes ces énergies polluantes. Mais voilà la grande puissance qui est l'Allemagne, la Chine, aujourd'hui, ils reprennent le charbon. Alors, en force, le charbon. Et nous qui allions produire demain les batteries avec notre lithium, sinon l'hydrogène,
Mais est-ce que vous êtes en train de voir comment en Europe on est en train de faire des recherches sur l'hydrogène, on est en train d'installer déjà des usines de production d'hydrogène, on est en train d'installer déjà des usines de batteries avec le lithium. Est-ce que, moi, c'est la question que je me pose. Nous, en RDC, Congo, RDC et Zambie, on est prêts, bon, ce que j'apprends dans les infos qu'on va fabriquer, on va construire une usine. Je me demande si on ne va pas seulement nous endetter et en faire demain un éléphant blanc, donc de batteries qui risquent de ne pas trouver de preneur. Mais sinon alors, il faudrait arriver déjà à mettre ces pièces d'autres usines qui doivent fabriquer du matériel pour utiliser ces batteries. Sinon, ça ne servira à rien.
Merci.
Même l'hydrogène dont on parle, produire l'hydrogène avec Inga qu'on est en train de projeter, c'est bien. Mais l'hydrogène, on sait, pour pouvoir confiner l'hydrogène et le transporter, c'est tout un problème. Est-ce que nous n'allons pas demain nous endetter et construire une usine qui sera encore un éléphant blanc demain, comme la sidérurgie de Maluku, comme la raffinerie de Moanda? Donc ce sont des leçons que nous devons tirer. Moi je crois que Davos, c'est bien Davos d'aller, mais combien d'entreprises congolaises sont parties? Et je ne sais pas si Josué peut nous dire combien d'entreprises de fabrication de cacao du Cameroun ou bien de Côte d'Ivoire sont allées là. Donc eux, ils sont venus, quelques chefs d'État, quelques chefs de gouvernement, du ministre des Affaires étrangères, mais le plus gros lot, c'était les chefs d'entreprise. Et ces entreprises-là, pour revenir au sujet, au premier sujet que nous avions traité, ce sont ces mêmes entreprises-là qui ont besoin des coltans et qui ont besoin de tous les minéraux qui font que le Congo soit en guerre aujourd'hui.
Merci.
Donc, ces gens qui se réunissent, sincèrement, c'est vrai, il faut y aller, mais soyons très prudents parce qu'ils parlent de nous, donc nous devons nous organiser. Merci.
Merci, Madame Bernadette Kamango. Comme l'a dit Victor Nzuzu, il faut y aller. Mais à votre avis, quelles pourraient être les retombées du sommet de Davos sur l'économie de la RDC? Et, en d'autres termes, qu'est-ce que la RDC peut attendre de Davos?
Je suis là, je suis moi-même chef d'entreprise. D'ailleurs, c'est pourquoi je souriais quand j'entendais parler des chefs d'entreprise. Mais j'ai pas été à Davos. J'ai pas été à Davos. Et combien de chefs d'entreprise sont partis là-bas? Bon, moi-même, je ne saurais vraiment pas vous dire. C'est bien d'aller dans les forums internationaux. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que ça nous permet aussi de voir ce qui se passe ailleurs et de pouvoir aussi rectifier le tir ici au pays, dans l'entrepreneuriat. Mais moi, je pense que la première des choses qu'il faudrait faire avant de pouvoir avoir tous ces échanges, c'est essayer d'organiser l'entrepreneuriat, les entreprises ici, entre nous, les entreprises congolaises entre elles. Moi, j'ai mon entreprise, mais je peux vous dire que si ce n'était pas par hasard l'appui des bailleurs de fonds, je peux citer à titre d'exemple avec la Banque mondiale, avec le programme PDM-PME, mais je peux vous assurer que je ne saurais pas me retrouver dans mon activité. Tout simplement pourquoi? Parce que au niveau de la RDC, l'entrepreneuriat n'est vraiment pas, et un peu pêle-mêle, l'entrepreneur congolais a des difficultés quand il doit par exemple exporter à l'extérieur du pays les propres produits congolais pour essayer un peu de faire parler de la RDC à travers les produits congolais. C'est tout un problème, tout simplement pourquoi? Parce que on nous reproche à chaque fois la qualité de nos produits. Nous n'avons aucune usine d'emballage. Et l'emballage est un problème extrêmement, donc vous n'avez pas une idée de quelle manière nous les entrepreneurs on se débrouille pour emballer nos produits et à l'extérieur pour en ce qui concerne la concurrence, la compétitivité, nous n'y sommes pas. Ce qui fait que quand il y a des réunions comme celle qui se passe à Davos, c'est très bien de pouvoir inviter les investisseurs des autres pays à venir investir au Congo, mais ils vont venir trouver quoi? Des entreprises mal organisées, des entreprises qui ne savent pas répondre à leurs demandes. Et non seulement ça, ils viennent de manière plus ou moins arrogante, avec déjà des préjugés en tête que l'entrepreneur congolais ne connaît rien, il est faible, il n'a pas de capacité, des histoires comme ça. Donc il faut d'abord faire briller l'entrepreneuriat ici en RDC, donner aux entrepreneurs congolais les mêmes capacités de production qui se trouvent ailleurs dans tous ces pays-là, Davos ou bien je ne sais pas où, et ceci permettra également d'être compétitif face à tous ces investisseurs qui arrivent ici, qui devraient Merci. Pouvoir arriver ici au Congo. Donc c'est un peu l'observation que je pourrais faire. Il faut d'abord que le Congo organise ses propres investisseurs congolais avant de pouvoir appeler les autres Congolais des pays extérieurs.
Merci, et c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci à Madame Bernadette Kamango, à Monsieur Victor Ndouzi, à Monsieur Josué Blaise de Mbangakak. Merci aussi à Jean-Noël Mokondo qui était à la technique et avec la participation d'Hervé Voka, de Christian Lomombe, Didier Dadi et de Dieudonné Nyangasa, sous la supervision d'Alex Sommet, de Martin Sebujangwe et d'Étienne Rougeri. À la présentation, Guy Maté, merci et bon week-end sur Radio Capi. Cette émission sera rediffusée ce soir à 22h heure de Kinshasa. Vous pouvez aussi la retrouver sur le site radiocapi.net. On se sépare avec inoubliable cette chanson d'Ale Makaba contenue dans l'album Pile ou Face, sorti en 1995. Et on se retrouve le samedi prochain.
La costa la mini, le loyo es poca. Saca moki, oh no moki mi mabe. Na leli ami, na bandi se kolela. Na nyokwa mi motema, saca. La coma se colota, lo está chévere, na que ina, que ina, na na moca, mufaya, na coma solo zuba, ya pude la coye, na mi tu mi soki o salami. Kala se bongo kino liwa.